Alors, je fais un retour sur la justification par la foi qu'a reçu Abraham. En prenant le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, qui est normalement, dans la lecture suivie que nous avons, la lecture du jour. Nous allons donc lire le chapitre, et puis ensuite en faire un commentaire, alors peut-être plus du type étude biblique, on verra, mais en espérant que ça sera pour vous le moyen de recevoir une instruction qui vous édifie vous-même. On n'est pas là simplement à observer ce qui s'est passé il y a très longtemps dans la vie d'un homme, mais ce qui rejoint notre propre cœur et ce qui nous permet à nous aussi d'être dans la réconciliation avec Dieu. Je dois dire que vraiment le monde d'aujourd'hui est dans l'hostilité à Dieu, clairement. Il s'oppose à sa révélation, mais cette révélation demeure et nous nous appuyons sur elle pour notre compte. Alors, lisons tout simplement le passage. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu ? Il parle ici à des Juifs. Si Abraham, c'est l'apôtre Paul bien sûr qui s'exprime, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est dit au début, c'est rappelé à la fin de cette exhortation, instruction de l'apôtre Paul. Alors nous avions lu l'épître aux Hébreux au chapitre 11 qui atteste également de la foi d'Abraham. Au moment de sa vocation, Abraham obéit et partit. Cela est l'effet de sa foi. Lors du sacrifice d'Isaac, il offrit Isaac par la foi. Donc les versets 8 et 17 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Mais concernant la naissance du Fils unique, c'est plutôt Sarah qui est citée en exemple, en fait, dans Hébreux. En fait, l'élan initial vers le pays de la promesse n'était pas encore la foi qui justifie. C'était déjà la foi en Dieu, mais il fallait autre chose pour arriver à cette foi qui justifie. La foi qui justifie, et que relève l'apôtre Paul, intervient plus tard. Il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, se trouve non au chapitre 12, lors de la vocation d'Abraham, de la Genèse, mais au chapitre 15, verset 6, précisément. Donc je vous lis au début de ce chapitre 15, après ces événements. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc ce dialogue entre Abraham et l'Éternel intervient après plusieurs épisodes déjà de la marche par la foi d'Abraham. Et il s'agit de l'héritage qui a été promis par Dieu. La pensée du prophète était qu'un jeune parent, Éliézer, pouvait bénéficier des promesses. Ce n'était pas incompatible avec la formulation initiale de la promesse. Abraham exprime quand même un regret. Et c'est alors que Dieu lui précise « C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Abraham a confiance en cette parole et c'est à ce moment qu'il est justifié devant Dieu. Alors Paul, dans son développement, présente Abraham comme étant à ce moment-là un impie à qui Dieu fait grâce. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et en confirmation de cette pensée, l'apôtre cite David, qui affirme le pardon des péchés sur une base gracieuse, avec le bonheur qui en découle. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc David vient en confirmation de la justification d'Abraham, du pardon qu'Abraham a reçu pour pouvoir devenir le père de nombreuses nation. Abraham est donc bien un pécheur à qui Dieu a fait grâce. Ce n'est pas un homme d'une autre nature que nous, exceptionnel, qui aurait, par sa propre vertu, mérité que Dieu le choisisse et lui donne donc toutes les promesses. Dans tout son commentaire du chapitre 4, Paul s'appuie sur la parole précise de Genèse 15, 6, qu'il répète à la fin, pour attester la justification d'Abraham. Mais son raisonnement intègre Genèse 17, 5. Au verset 17, nous avons cette parole, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». En fait, cette parole, Dieu l'a dite à Abraham encore plus tard, au chapitre 17 de la Genèse, verset 5. Soit 14 ans après Genèse 15, quand Abraham a 99 ans, c'est à ce moment-là que Dieu précise à son serviteur, qui avait interprété, reçu la première parole, qu'il l'avait justifié d'une certaine façon, mais là, Dieu lui précise que la véritable descendance sera par Sarah, au moment où il a 99 ans. La parole du chapitre 15 ne disait pas « ce sera par Sarah », mais « ce sera celui qui sera sorti de tes entrailles ». La foi imputée à justice, qui mène à la naissance d'Isaac, en fait, court donc sur 14 années, où Abraham a dû approfondir sa connaissance de la volonté de Dieu. Et dans ce laps de temps, le père des croyants a dû apprendre que développer des pensées humaines concernant la promesse de Dieu n'est pas la bonne solution, puisque dès le chapitre 16, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham s'inscrit bien toujours dans la promesse de Dieu. Un de ses héritiers, donc celui qui sera son héritier, sera sorti de ses entrailles. Donc ce n'est pas incompatible. Il cède de ce fait à la proposition de Sarai pour avoir, on peut dire, plus facilement, par une méthode humaine, disons par la logique humaine, avoir cette descendance. Mais ce n'est pas la bonne solution. Ça a créé des problèmes immédiatement lorsque Agar était enceinte. Elle a été méprisante vis-à-vis de Sarai. Sarai l'a maltraitée, etc. Bon, et finalement, Ismaël est né. Et les choses comme ça sont restées en l'état pendant une bonne dizaine d'années. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Et donc, ça n'a pas empêché Dieu de reprendre son propre projet au temps voulu. Et je dirais le plus tard possible, pour qu'il soit évident que l'homme avait perdu sa capacité. L'homme et la femme. Et cela n'a pas empêché d'Abraham d'y croire encore, de se fier à la parole de Dieu qui lui a annoncé que Sarai allait avoir un enfant. De même pour Sarah, Alors, dans le texte de la Genèse, ça commence à chaque fois pour Abraham comme pour Sarah par un rire, parce que c'est tellement improbable, c'est tellement énorme que l'un et l'autre ont ri. Alors, ils ont peut-être ri avec une nuance un peu différente, mais c'est finalement un rire qui approuvait ce projet qui semblait insensé de Dieu, en fait, où Dieu dépasse les calculs humains, où Dieu s'inscrit en faux contre la logique de la descendance charnelle et où il va produire une véritable descendance spirituelle qui va être dans laquelle il va pouvoir amener le salut d'humanité. Abraham a donc dépassé la confiance qu'il aurait mise volontiers dans sa chair, c'est-à-dire au plan spirituel dans les œuvres de la loi, pour se confier entièrement dans la justice conférée par l'Esprit de Dieu à celui qui croit. En Galates, l'apôtre Paul va expliciter cela au chapitre 4 de cet épître, les versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous donc point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Citation du prophète Ésaïe, chapitre 54. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Alors, bien sûr que c'est une question spirituelle et une manière de s'approprier le salut de Dieu, non par nos capacités humaines, la vertu qui nous est propre, mais par la foi en la grâce de Dieu. C'est là que nous sommes rendus aptes à être justifié par le Seigneur. Alors ici, chapitre 4, verset 17 d'Abraham, je vous relis. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Comment comprendre la foi d'Abraham selon ce verset, et en particulier cette mention « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Abraham a cru, comme Dieu le lui disait, qu'il deviendrait père d'un grand nombre de nations, ce qui est rappelé au verset 18. Mais les versets 19 à 22 montrent qu'il a cru que cela se ferait à travers la descendance d'Isaac, Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donner naissance à sa descendance à travers Sarah, alors que l'un et l'autre avaient dépassé l'âge. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cette parole, Dieu qui donne la vie aux morts, peut, alors je n'ai pas consulté des commentaires pour apporter cette interprétation, d'autres pourront le faire, mais cette parole peut soit viser Abraham lui-même, qui comme tous les pécheurs était mort dans ses péchés, d'où son incapacité naturelle à transmettre la vie qui contiendrait en l'occurrence le salut de l'humanité. Mais cette parole peut aussi viser ceux qui seront la descendance spirituelle d'Abraham, les hommes morts dans leurs péchés, comme l'apôtre le dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses, hein, qui reçoivent la vie par la foi au Fils de Dieu. Donne Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle alors les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et donc Dieu nous appelle, nous qui n'étions pas ses fils, eh bien il nous appelle ses fils et ses filles. En définitive, c'est bien nous qui sommes concernés par la justification accordée à Abraham, sur quoi l'apôtre revient dans sa conclusion. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La justice nous est mise à notre compte, nous est imputée, comme un chèque qu'on met sur un compte. La justice nous est imputée dès lors que nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus. Non pas seulement que Jésus est ressuscité, mais que Dieu a ressuscité Jésus. Nous croyons, dit l'apôtre, en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Que signifie donc croire que Dieu a ressuscité Jésus? Ce n'est pas seulement croire qu'un homme qui était mort est revenu à la vie par la puissance de Dieu. C'est croire que le juste qui était mort chargé de nos péchés en a été libéré. Par la sainteté de Christ, le péché a été ôté, a été couvert et il a disparu de devant la face de Dieu. Christ est mort parce qu'il portait nos péchés. Et si, étant mort, il avait continué à porter nos péchés, il n'aurait pas pu ressusciter. Dieu l'a ressuscité parce que le péché avait été ôté par son sacrifice. Nous croyons que Dieu a ressuscité Christ en raison de sa justice qui a triomphé de nos péchés. La résurrection de Christ signe son triomphe sur nos péchés lorsqu'il les a portés sur la croix. Nous sommes convaincus, selon la parole de l'apôtre, que toute l'opération est de Dieu. Car Christ a été livré pour nos offenses. Il a été donné par Dieu dans le but d'expier nos offenses. Dieu a conçu une opération parfaite, l'expiation de nos péchés par la mort de Jésus-Christ, suite à laquelle il a pu faire valoir la justice de son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. Si donc tu crois que Jésus, que Dieu a ressuscité Jésus, tu crois que le problème de ton péché a été réglé par sa mort. Et la justice de Jésus-Christ, vivant, rejaillit sur toi et tu deviens juste aux yeux de Dieu. Parce que ton péché maintenant a disparu de devant Dieu, tu peux vivre selon la justice qui a été manifestée dans son Fils Jésus. Tu peux vivre la vie nouvelle, tu peux vivre selon l'esprit de sainteté et tu peux maintenant plaire à Dieu d'une façon définitive. Bien sûr, l'apôtre continuera cette démonstration dans les chapitres suivants. Vous les lirez dans votre lecture quotidienne. Mais tout l'enseignement de l'apôtre est là pour nous dire « Oui, si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est que le péché a été ôté par son sacrifice. » Et que donc ton propre péché, Dieu justifie l'impie. Il ne t'impute plus ton péché parce que Christ l'a pris à son compte et l'a expié à la croix. C'est cela l'évangile. C'est cela la base de notre vie nouvelle. Et bien sûr que nous croyons que ces choses ne sont pas écrites selon un récit composé et imaginé par les hommes, mais sont inscrites dans la réalité de l'histoire, à travers la naissance historique de Jésus parmi les hommes, à travers sa vie parfaite, à travers sa crucifixion sous Ponce Pilate, à travers sa résurrection, devant les yeux de ses apôtres qui ont pu ensuite être les témoins de sa résurrection. Lui, le saint et le juste, dira l'apôtre Pierre, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, car il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Nous voilà, nous, ce matin, devant Dieu, dans la justice de Jésus-Christ, parce que nous croyons en l'œuvre accomplie à la croix. Quel que soit notre péché, quelle que soit sa grandeur, quelles que soient ses ramifications, tout ce qui a pu être péché dans notre vie et qui peut l'être encore, puisqu'Abraham, nous le voyons, a commis des fautes, comme David a commis des fautes, mais ce ne les a pas empêchés d'être justifiés par le Seigneur et de devenir des témoins de sa grâce pour le monde entier. Donc confions-nous définitivement dans la justice de Dieu en Jésus-Christ et vivons dans une foi parfaite en ce qu'il accomplit pour nous, et que tout ce qui vient dans nos vies de bon, de bénédiction, est la conséquence du pardon qui nous a été accordé à la croix du Calvaire. Amen.